Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver comme chaque fois dans le cadre de nos conversations. Et aujourd'hui, Daniel, eh bien, on va parler comme à notre habitude de géopolitique, puisqu'on le voit, on est en pleine réactivation de l'activité géopolitique. Hein. Ça bouge beaucoup sur la scène internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Jérusalem juste après Jake Sullivan, et puis Benjamin Netanyahou à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, et puis une fois de plus Anthony Blinken en Chine. Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement, Daniel, pour Israël?
Moi, ce qui me frappe, c'est que les titres des journaux et les commentaires semblent se focaliser, en ce qui concerne Israël, plutôt sur la situation sécuritaire d'Israël, les attentats, les opérations de police et de Tzal dans les territoires. C'est ça qui semble attirer l'attention des commentateurs à l'occasion de cette activité diplomatique. Ça rappelle un peu l'adage de Confucius qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc il y a une sorte de focalisation sur ce qui ne sont pas les priorités réelles, mais tout de même la situation sécuritaire d'Israël mérite quand même quelques commentaires dans nos conversations. Il y a une véritable situation sécuritaire. En gros, depuis presque un an, il y a, alors moi j'appelle ça une sorte de troisième intifada à bas bruit. Mais on voit bien qu'il s'agit d'une stratégie concertée, avec beaucoup d'attentats qui se succèdent, dont on voit bien qu'ils correspondent à une stratégie. Donc, bien entendu, les grandes capitales du monde savent bien qu'Israël n'a pas d'autre choix que de combattre le terrorisme, que c'est du terrorisme, et donc ils soutiennent Israël globalement dans cela. D'autant qu'on voit bien que c'est un terrorisme d'un genre nouveau. La capitale de ce terrorisme nouveau, c'est à Jénine, hein, dans les camps réfugiés de Jénine, au nord de la Cisjordanie, en Samarie. Probablement, d'après les renseignements menés par le Hamas et le djihad islamique, qui sont à Gaza, mais qui se débarquent depuis très longtemps déjà en Cisjordanie, et tout ça montre qu'on prépare l'après Abbas, 87 ans, qui n'est plus légitime. Il y aura peut-être un jour des élections, ou donc par la voie électorale ou par la force. Le Hamas compte faire en Cisjordanie ce qu'il a fait à Gaza, et évidemment c'est pas une bonne nouvelle. Donc il est tout à fait légitime pour Israël d'aller dans les foyers de ce terrorisme. Les Palestiniens, on le voit, sont quand même à la fois désemparés et divisés. Il n'y a plus de négociations sur un État palestinien, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs et plus matière. Tout avait été mis sur la table en l'an 2000. Les Palestiniens n'ont pas voulu d'un État à côté d'Israël. Tout le monde sait qu'ils veulent un État à la place d'Israël. Et donc, pendant ce temps-là, Israël gère le statu quo. Le statu quo, c'est ce qui est issu des accords d'Oslo. Il y a une autorité palestinienne avec laquelle Israël coopère tous les jours sur le plan sécuritaire. Et puis il y a trois zones, la zone A, la zone B, la zone C, et Israël et les Palestiniens jouent dans le cadre de cette zone. Et puis Israël mène une politique au fond unilatérale, construction du mur, s'est retiré de deux territoires qu'ils occupaient en 2002, sud du Liban, immédiatement occupé par le Hezbollah, le Gaza en 2005, immédiatement pris en charge par Hamas. Donc on a compris que dès qu'on cesse ce que les gens appellent l'occupation, on a un terrorisme organisé capable de passer du terrorisme à des véritables armées dotées d'armes dramatiques. Donc on voit bien que la stratégie palestinienne aujourd'hui, elle est divisée entre l'autorité palestinienne qui joue la carte internationale. Ils essayent simplement d'avoir des condamnations d'Israël par soit l'ONU, soit par des ONG privées, BDS, Amnesty et autres. Quant aux autres membres des groupes palestiniens, ils jouent la carte du terrorisme pour qu'on n'oublie pas la question palestinienne, parce qu'elle est souvent contournée, parce qu'ils veulent pas qu'Israël vive en paix, vive tranquillement, et donc ils sont prêts à sacrifier pour ça des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'idéologie, mais qui sont alimentés par la haine du juif.
Alors donc, Daniel, vous disiez que lors de ces rencontres, on avait quelque peu évité les priorités, hein, que ce n'était pas ce dont on avait discuté, les priorités. Justement, quelles sont ces priorités alors?
Bon, alors si on lit attentivement les commentaires, on voit bien que les vraies priorités pour les puissances qui se rencontrent, Israël, États-Unis, Chine entre autres, c'est l'Iran. C'est l'Arabie Saoudite, c'est la Chine, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Alors, on peut commencer par l'urgence, c'est la guerre en Ukraine. Au fond, les Américains tentent de rallier tous leurs partenaires. Et alors, évidemment, Israël est un problème particulier. Il peut pas, il doit tenir compte de sa situation avec la Russie, qui est importante pour Israël pour pouvoir bombarder les armements qui transitent entre l'Iran et le Liban et qui traversent l'Irak et la Syrie, donc il faut les bombarder, il faut bombarder aussi les bases iraniennes qui sont notamment tout proches du territoire israélien en Syrie, et on a besoin pour ça de l'accord tacite des Russes, donc on comprend et donc chacun explique sa position. La deuxième priorité, c'est évidemment, c'est l'Iran. Je crois que maintenant, il est clair qu'il n'y aura plus d'accord. On en a parlé pendant au moins 2 ans, nous, ici, à conversation, et on disait à chaque fois, il n'y aura pas d'accord. Ben oui, il n'y a pas d'accord. Et donc, on est en train de préparer une alternative. Alors, l'alternative, c'est l'emploi de la force, mais c'est pas forcément des bombardements massifs et de guerre. Il y a d'autres façons de répondre, et on voit bien que les manœuvres conjointes américano-israéliennes des jours précédents et toutes ces rencontres ont pour but de coordonner une éventuelle intervention à bas bruit probablement avec des on l'a vu avec des interventions de drones par exemple sur l'Iran. Sur l'Arabie Saoudite l'objectif évidemment des Occidentaux c'est que l'Arabie Saoudite rejoigne les accords d'Abraham. On peut pas dire qu'on s'y prenne bien. Israël fait tout ce qu'il peut. Biden un petit peu évidemment c'est un peu emmêlé les jambes avec l'affaire Khashoggi et donc on a vu le contraste entre sa visite au mois de juillet 22 et la visite de Xi Jinping au mois de janvier il y a quelques semaines l'Arabie Saoudite joue un petit peu de la rivalité entre les deux grandes puissances. Alors sur la Chine, bon, c'est clair que ça reste le défi principal. Que là encore, les Américains se doivent de réunir leurs alliés, et là aussi, Israël fait partie de ces alliés dont on a besoin. Israël n'est pas directement partie prenante de la guerre technologique entre les Américains et la Chine, qui se joue sur les semi-conducteurs, mais quand même, vous savez que la plus grande entreprise exportatrice d'Israël, c'est une firme américaine, Intel, qui vend la moitié des exportations israéliennes vers la Chine. Donc, Israël fait partie de toute cette guerre technologique entre les Américains et la Chine. Et donc, si vous voulez, pour conclure la conversation de ce matin, toutes ces grandes manœuvres géopolitiques, elles s'inscrivent dans la durée. Les journaux, les médias ont besoin de faire de l'information immédiate. L'information immédiate, c'est effectivement la situation sécuritaire qui a été liée par beaucoup avec l'arrivée du nouveau gouvernement israélien. Au fond, la clé de ce décalage entre les vraies priorités que je viens de citer, Iran, Chine, Russie, et la couverture médiatique, c'est ce nouvel gouvernement. Alors, ce gouvernement, évidemment, inquiète surtout d'ailleurs les Occidentaux. Surtout les Européens et quelques Américains, et surtout les Juifs américains. C'est un petit peu un débat interne en Israël un peu élargi, et chacun au fond prétendant vouloir le bien d'Israël en le critiquant. C'est pas tout à fait faux. Je pense que les pressions qui sont faites contre Israël sur bah, les deux grands points d'accroche ou d'inquiétude autour de ce gouvernement, c'est la réforme de la Cour suprême qui ferait d'Israël un État pas tout à fait ou pas suffisamment démocratique, et d'autre part la gestion du problème palestinien qui serait gérée avec plus de force, plus de rigueur, plus de violence, et donc il y a une mise en garde de nos amis à l'extérieur pour dire Israël, faites attention parce qu'on vous regarde et parce que ce que vous faites aura un impact sur les grandes questions iraniennes, saoudiennes, etc. Parce qu'on l'a souvent évoqué ici à conversation, il y a un lien étroit entre les politiques intérieures et la politique extérieure. Donc prenons ces critiques avec philosophie. J'espère que ça permettra surtout à Bibi, qui se prétend être le gardien des excès, Il dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. Et au fond, ces critiques européennes, américaines, notamment des milieux juifs américains, ont pour but de renforcer la main de Bibi par rapport à des partis qualifiés soit d'extrémistes, soit même de suprémacistes blancs juifs. Tout ça n'est pas encore avéré, tout ça reste encore en état. On va voir, mais ça va se précipiter. On aura l'occasion dans les prochaines conversations probablement de voir si ça évolue dans un sens qui est contrôlé au fond par Bibi ou si ça prend une direction qui alors ça mettrait en cause la politique étrangère israélienne.
Et on en reparlera bien évidemment avec vous, Daniel, dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel Haber, pour vos éclairages et comme chaque fois, excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.
Au revoir.